chronique pour la paix sur Judaïque FM. Ce matin, Ilan Rosenkir reçoit Ofer Bronstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs. Ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter donc un nouveau numéro de chronique pour la paix. Il y a 25 ans, Yitzhak Rabin était assassiné par un extrémiste juif après une campagne de haine sans précédent. À cette occasion, je reçois aujourd'hui, donc, comme Lise vient de vous l'annoncer, Ofer Bronstein. Ofer, vous m'entendez ?
Oui, bonjour Ilan.
Bonjour. Ofer, vous avez été collaborateur d'Yitzhak Rabin et vous êtes président du Forum international pour la paix au Moyen-Orient. Pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous demanderai quel est, à votre avis, l'héritage qu'Yitzhak Rabin nous a légué.
Si on peut parler d'héritage, c'est celui de vouloir la paix. C'est celui de continuer à réaliser ce qu'il avait entrepris il y a 25 ans et qui a été imputé par les mains d'un terroriste juif. Et comme vous l'avez dit, incité par d'autres. Parce que il faut bien se rappeler que cet assassinat politique, qui était un des premiers en Israël, n'est pas venu dans un vase clos. L'assassin d'Yitzhak Rabin a été incité, a été influencé, a été inspiré. Et je déplore aujourd'hui, tout d'abord, je suis ravi de voir en Israël ces derniers jours d'énormes manifestations en la mémoire d'Yitzhak Rabin, mais je déplore qu'un tiers des Israéliens aujourd'hui pense qu'il ne faut plus le commémorer, que beaucoup de jeunes qui sont nés après son assassinat ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Donc on a un travail très important de mémoire à faire et par rapport à son héritage, c'est de continuer sur le chemin de la paix, de la réconciliation avec nos voisins et de changement de priorité nationale. Parce que je voudrais vous rappeler quelque chose. On parle de Rabin, l'homme de paix, mais moi je voudrais mentionner le fait que ça a été un homme aussi de social et économique pour sa politique. La campagne électorale de 1992, nous avions parlé de changement de priorité nationale, pas seulement au niveau de la paix, mais aussi au niveau d'une politique économique et sociale plus cohérente. Et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, pendant le mandat de Rabin, le budget de l'éducation nationale était plus important que le budget de la défense.
Donc c'est ça que... C'était Yossi Sarid qui était ministre de l'Éducation à cette époque, si je ne me trompe.
Exactement. Un très grand ministre de l'Éducation nationale qui est respecté et qui est respecté par tous à ce jour. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est investir plus et aujourd'hui on le voit même. Avec toutes les manifestations en Israël, la société israélienne est fracturée, elle est divisée, elle est ensanglantée. Le débat politique est très violent. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est revenir à la raison et investir dans la société israélienne beaucoup plus que dans la défense.
Alors revenons sur la question de la paix. Yitzhak Rabin est présenté comme quelqu'un qui voulait la paix. Pourtant, Yitzhak Rabin n'était pas partisan à l'époque d'un État palestinien. Et même si les implantations, la colonisation a été ralentie, elle n'a pas été stoppée et les infrastructures se sont, dans les territoires occupés, se sont développées, infrastructures qui ont permis par la suite une accentuation des colonies dès lors que Yitzhak Rabin a été remplacé par Netanyahou. Est-ce que l'on peut dire que Yitzhak Rabin a été donc ce précurseur de l'État palestinien comme on le présente aujourd'hui souvent?
Vous avez raison de mentionner que c'est la gauche israélienne qui a commencé avec cette aventure aberrante qui est l'aventure des colonies. C'est pas la droite israélienne. Vous avez raison de vous dire que c'est des leaders travaillistes, excusez-moi, qui ont continué à développer les colonies. Mais quand les accords d'Oslo ont été signés en 1993 à Washington, c'était des accords intermédiaires. Ce n'étaient pas des accords de paix, c'était des accords de reconnaissance mutuelle, mais c'était des accords intermédiaires qui devaient tenir 5 ans. Et pour à la fois construire un respect et une confiance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens, mettre en place tout un système à la fois économique sécuritaire de coopération entre Israël et les Palestiniens, à ce jour, la relation entre Israël et, les Palestiniens est régie par les accords d'Oslo. Économiquement, est régie par ce qui est appelé les accords de Paris, qui ont été signés en 1994. Mais ils devaient durer que 5 ans. Et Rabin était tout à fait conscient que si tout allait bien sur les 5 ans que ces accords nous préparaient, l'aboutissement était la création de l'État palestinien. Le gouvernement d'époque n'était pas sourd aux volontés et aux résolutions de la communauté internationale. Donc il était évident qu'on allait vers la création d'un État palestinien sur la base des frontières de 67, avec des changements, avec des échanges de territoire. Mais on allait vers la solution des deux États.
Alors justement, Rabin a été quelqu'un qui, après une carrière, enfin après sa carrière militaire, et alors qu'il avait pris des positions très dures à l'écart des Palestiniens, il a pris conscience du fait national palestinien et il a compris que une solution militaire à elle seule n'était pas possible et qu'il était important d'aller vers les Palestiniens et de progresser vers une solution politique. Est-ce que, alors qu'aujourd'hui on a tendance à considérer que la question palestinienne est caduque et que l'important est dans les accords de normalisation qui se multiplient avec des États arabes, est-ce que cette question palestinienne vous semble toujours d'actualité et est-ce que cette importance ne fait pas partie justement de l'héritage de Rabin ?
D'abord, je suis ravi qu'il y ait des pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël, qui ne signent pas des traités de paix parce qu'on n'était pas en guerre avec les Émirats ou avec Bahreïn, mais qui signent des accords de reconnaissance mutuelle. C'est le président palestinien Abbas qui, chaque année, répète à l'ONU qu'il n'y a pas un État de trop à l'ONU, mais qu'il y a un État qui manque. Donc, il est évident que notre objectif est de voir Israël reconnu par tous les pays musulmans, par tous les pays arabes. Et je suis ravi des accords qui ont été signés ces derniers temps. Mais il faut se remettre en la mémoire et il faut accepter le fait que le voisin immédiat des Israéliens au quotidien, au jour le jour, est le Palestinien. Il y a une chose qui ne va pas changer, qui n'a pas changé depuis des centaines d'années et qui ne changera pas dans des centaines d'années. C'est qu'entre le Jourdain et la Méditerranée, il y a deux peuples. 15 millions d'habitants plus ou moins aujourd'hui. Il va falloir qu'ils trouvent un arrangement pour vivre en bon voisinage. Le meilleur arrangement qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est la solution des deux États. Bien sûr, ce sera deux États qui vont vivre en bon voisinage. Les Palestiniens seront un État démilitarisé, les frontières seront ouvertes, il y aura un échange de personnes et de marchandises qui sera libre, et Jérusalem sera une ville ouverte où, à Jérusalem-Est, il y aura, s'il le décide, le drapeau palestinien, et à Jérusalem-Ouest, comme ça l'a toujours été, il ne fallait pas attendre le président américain pour reconnaître que Jérusalem-Ouest est la capitale de l'État d'Israël. Ça a toujours été le cas. Donc le conflit ou le processus de réconciliation israélo-palestinien ne pourra pas être enterré, ne pourra pas être
enterré. Alors justement, puisqu'il nous reste très peu de temps, excusez-moi, Ofer, de vous interrompre, puisqu'il nous reste très peu de temps, moins d'une minute, vous parlez de collaboration et de reconnaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, il existe des exemples de collaboration ou est-ce qu'on est également dans la même situation de gel comme ça l'est au niveau politique ?
C'est vrai que depuis la seconde intifada en 2001, il est interdit aux Israéliens de rentrer dans les territoires palestiniens. Et comme vous le savez, les Palestiniens doivent avoir un permis spécial pour entrer en Israël, ce qui rend la rencontre entre Israéliens et Palestiniens plus difficile. Il n'empêche qu'au quotidien, des milliers d'Israéliens, des milliers de Palestiniens ont des échanges. Je vous rappelle que 80% des exportations israéliennes vont vers les territoires palestiniens, que les Palestiniens consomment des produits israéliens tous les jours, que les échanges économiques sont quotidiens, que 100 à 150 000 Palestiniens normalement rentrent en Israël pour y travailler. On a vu une coopération sanitaire ces derniers mois, je la félicite. Donc la relation entre Israéliens et Palestiniens a connu des hauts et des bas, mais elle existe et il faut continuer à l'encourager. Il n'y a que la paix bien. Qui pourra permettre aux deux peuples de vivre dans la sécurité.
Eh bien, ça sera la conclusion de notre entretien. Nous entendons en fond ce chant de la paix, Shira Shalom. C'était le chant que Rabin chantait quelques instants avant d'être assassiné. Il me reste à vous remercier, à souhaiter à tous nos auditeurs une bonne fin de journée et à nous retrouver dans 15 jours. Au revoir.